Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, c'est votre nouveau rendez-vous et c'est le dernier de la semaine, alors on en profite, toujours double jeu, ça commence à 18h en premium, plutôt qu'en avant-première, c'est mieux, sur franceinter.fr et en podcast, et puis ça recommence, 22h minuit, c'est la version classique, à l'antenne, comme tout le monde. Ce soir, ça galope pour l'or de Clermont-Tonnerre avec Nevada, premier film sur une prison au Nevada, l'histoire d'un détenu qui se retrouve dresseur de Mustang, c'est un programme de réhabilitation sociale, une thérapie animale, une conquête de l'Ouest, en tout cas pour vous, l'orque de Clermont-Tonnerre, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Blutch, il a le nom d'un caporal des tuniques bleues, c'est un dessinateur virtuose, un as de la BD, il signe un autre paysage, une monographie de 180 œuvres, toutes techniques confondues, qui s'exposent aussi au musée, notamment Tommy Ungerer de Strasbourg. Rétrospective Blutch, bonsoir.
Bonsoir, Laurent.
Les nouveautés nouvelles de Marion Guilbeault, et oui, nous sommes jeudi, les nouveautés nouvelles sont musicales, Marion.
Oui, Laurent, Basile Dimanski, Pénélope, Anténa, Nicolas Pogam, ce sont les trois objets musicaux qu'on va tenter d'identifier aujourd'hui.
Et dans le énervé de la suite ce soir, hôpital, il y a urgence et ça rue dans les brancards. J'aurais arrêté là les métaphores.
Oui, je pense que hôpital, on tire sur une ambulance, ouais, pour l'interrogation. Enfin oui, il y a une force poétique dans ce que je vous propose. Ce n'est pas la question, Laurent, la question c'est de savoir qui y aura, outre vous et moi. Nous serons en compagnie donc de Michel Tsimaratos, qui est professeur de médecine à l'hôpital de la Timone à Marseille, professeur de pédiatrie. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Repenser l'hôpital ». Il y aura également Maxime Gauthier qui arrive de son piquet de grève puisqu'il est médecin urgentiste à l'hôpital Lariboisière. Cynthia Fleury, fondatrice d'une chaire de philosophie à l'Hôtel Dieu, dans un hôpital, et Laurent Saint-Martin, député La République En Marche du Val-de-Marne. Ben, il en faut bien un pour défendre le plan santé.
Exactement, et pour 2022, on a le temps en même
temps.
Oui,
c'est vrai.
Ouais, le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Direction le Nevada avec vous, Laure de Clermont-Tonnerre, c'est le lieu de votre premier long métrage, un coup de maître pour un film de prisonnier et un western, on va y revenir. Un autre paysage, ça c'est pour vous, Blutch, un album somptueux de vos dessins, illustrations, affiches de cinéma, bref, une sorte de rétrospective de vos œuvres hors BD. Vous vous connaissiez l'un l'autre ?
Non.
Non.
Non, non, non.
Parfait. Eh ben, c'est votre premier nouveau rendez-vous. Vous avez une culture BD, Laure de Clermont-Tonnerre ?
Lucky Luke. Quand j'étais enfant. D'ailleurs, Lucky Luke qui m'a emmenée aujourd'hui dans le Nevada.
Dans le Nevada, oui.
Donc oui, je pense que ça nourrit mon imaginaire d'enfant que j'ai retrouvé 30 ans plus tard en faisant ce film.
En faisant ce film. Ouais. Le Nevada, vous connaissez, Blutch ?
Le troisième album de Lucky Luke s'appelle Arizona et pas Nevada.
Oui, tout à fait. Ouais.
J'ai jamais mis les pieds dans le Nevada. Moi, je connais le Nevada
à travers le cinéma.
À travers le cinéma et puis cette ville de jeu fameuse. Voilà, mais j'ai jamais mis les pieds dans l'Ouest. Ça reste pour moi une terre de fantasmes et de rêves.
Ah ben surtout quand on s'appelle Blutch. Nevada, c'est le portrait d'un criminel dans une prison du Nevada. Signe particulier, il va intégrer un programme de réhabilitation sociale. Ça consiste à dresser des chevaux, des Mustangs, qui ont un statut spécial là-bas. C'est ce que vous posez d'ailleurs dès le début du film. Je ne savais absolument pas. Des chevaux pourchassés parce qu'il y en a trop. Certains finissent comme pâtés pour chiens. D'autres sont dressés par des prisonniers.
Oui, oui, en fait, il y a le vrai problème, c'est un problème économique. C'est que la terre des chevaux sauvages rétrécit à cause des hommes, que les hommes ont besoin de ces terres-là de plus en plus pour leurs vaches. Les vaches rapportent de l'argent et pas les chevaux. Donc, on repousse ces chevaux de ces terres-là. Donc, du coup, leur habitat naturel rétrécit, la population grossit et donc, ils font des rafles où ils vont mettre certains chevaux en prison pour leur donner une deuxième chance, donc être adoptés, parce qu'à l'état sauvage, ils ne valent rien. Et où certains, malheureusement, vont finir toute leur vie dans des espèces de petits enclos où éventuellement, il y a beaucoup de braconnage, donc il y en a qui disparaissent. Enfin, c'est en tout cas très barbare, ce qui se passe pour ces chevaux sauvages.
Vous connaissiez cette situation avant de commencer le film ?
Pas du tout. Moi, j'ai découvert, grâce à un article par hasard, qui parlait de cette prison dans le Nevada et de cette thérapie. Et donc je me suis vraiment intéressée à ce sujet-là et c'est à travers ce programme que je me suis rendu compte que ces chevaux avaient une histoire et donc en remontant vraiment sur leur histoire, j'ai réussi à explorer un peu d'où ils venaient et quels étaient maintenant les enjeux et les problèmes d'environnement.
Vous connaissiez, vous, cette situation, Blutch ?
Non, absolument pas. Et là, j'apprends qu'il y a une surpopulation chevaline,
ouais.
Ce qui me surprend. Et je me demande comment on les rassemble à coups d'hélicoptère.
Oui, ouais, exactement. Oui. Bah, c'est le début du film.
Oui. À coups d'hélicoptère. Ouais. On a filmé une vraie capture et qui est organisée par le gouvernement. Ouais. Donc, ils font en sorte de nous mettre le plus loin possible pour pas qu'on filme des choses trop violentes.
Ouais.
De là où on était, on a quand même pu... faire une sorte de captation de ce qui se passe, donc vraiment en plan large. Et c'est très, très violent, c'est très barbare, parce qu'en fait, ils pulvérisent complètement les hordes, donc ils séparent les familles, et ces chevaux se retrouvent toute leur vie parqués dans des mini-enclos, alors qu'il y a une terre infinie et immense auquel ils n'ont plus accès. Donc il y a une espèce de métaphore ou d'absurdité, comme beaucoup de sujets qu'on trouve aux États-Unis, d'absurdité morale où ce cheval sauvage ne peut plus être sauvage ni libre sur ces terres.
Alors, des prisonniers au contact d'animaux, l'idée c'est de travailler ce sujet. Elle vous vient, je crois, d'un film, Le prisonnier d'Alcatraz ?
Alors,
L'Ordre de Clermont-Tonnerre.
Je l'ai vu enfant, Le prisonnier d'Alcatraz. Mais l'idée du film vraiment est venue d'un article que j'ai lu par hasard. C'était une thérapeute dans une prison à Strasbourg qui confiait des petits animaux.
Strasbourg, là où vous exposez, vous voyez.
Ah bah voilà,
nouveau lien.
Ouais, un nouveau lien.
On parle de l'Ouest et voilà qu'on
et
parle
voilà
de l'Est.
Qu'on parle de l'Est. Ouais. Donc c'est à Strasbourg et dans une prison.
Ouais. Oui, cette femme, Patricia Arnoux, qui est donc une thérapeute, qui a créé ce programme où elle confie des petits animaux, donc des lapins.
Cigognes.
Oui, j'ai pas vu de cigogne, mais j'ai vu des chinchillas, ce qui était assez surprenant. Chinchillas, lapins, souris, oiseaux. Ah ouais. Et en fonction de l'homme qu'elle rencontre, l'homme choisit son animal et doit s'en occuper, lui donner à manger, jouer avec. Donc il y a cette espèce de connexion très belle et très poétique qui se crée au milieu de cet environnement très agressif et violent.
Qu'est la prison.
Qu'est la prison. Donc ce contraste me plaisait, je me suis intéressée à cette histoire. J'ai écrit et réalisé Rabbit, mon court-métrage, qui est donc la version courte avec un lapin à la place du cheval.
Oui, c'est un autre budget.
C'est un autre budget, c'est un autre animal, mais ça a été la première étape avant Nevada.
Et en France, il existe d'autres centres qui travaillent cette thérapie animale avec les prisonniers ?
Oui, j'ai appris qu'il y en avait. Il y avait un centre à Arles. Alors, ce ne sont pas des chevaux sauvages, mais ce sont des chevaux domestiques qui sont amenés dans une prison à Arles. Et il y a un entraîneur, en fait, entraîneur-thérapeute, qui s'occupe aussi de créer ces couples entre détenus et chevaux. Alors, c'est différent, évidemment, des États-Unis, parce que les chevaux ne sont pas sauvages. Donc, il n'y a pas toute cette métaphore avec le cheval sauvage qui doit être dressé.
Et qui doit être prisonnier aussi. Et qui est fait prisonnier. Ouais.
Voilà. Mmh. Et qui aussi a besoin d'une seconde chance. Donc, il y a cette identification très forte qu'on trouve aux États-Unis entre l'homme et le cheval, qui est différente en France, mais qui existe aussi. C'est plutôt de l'équinothérapie. Et ça existe à Arles. Et je viens d'apprendre aussi qu'il y avait quelques programmes à Nantes, mais de façon très épisodique.
On va parler du film dans quelques instants. On va revenir aussi sur les images que vous avez tournées donc au Nevada. Pour vous, c'est un autre paysage, une rétrospective en album et une surexposition à Strasbourg de vos dessins, Blutch, de vos illustrations en dehors de la BD. Des affiches non retenues. J'ai pu voir celle de Holly Motors que vous aviez, qui était vraiment, vraiment très belle.
J'ai bossé avec Arax un bon moment. À la dernière minute, je crois, les distributeurs ont dit non, stop, on préfère mettre une photo
de film.
Souvent, ça arrive souvent.
On préfère les photos.
Oui, bien sûr. Ouais. Ça fait partie du jeu.
On décrit les fiches que vous aviez imaginées pour Carax.
C'était très étrange. C'était un peu scabreux aussi, parce que j'avais dessiné un genre de femme voilée, je crois, mais dans un style assez brutal, direct, avec des couleurs assez vives, franches, j'allais dire presque vulgaires, et elle est voilée, le visage est voilé, mais elle a les seins nus, je crois, si je me souviens bien.
C'est exactement ça, oui. Et je comprends que les producteurs aient pu avoir peur.
Oui, je pensais qu'on passerait la rampe quand même, parce qu'on a bossé un bon moment là sur cette affiche. Et il y a eu d'autres propositions. Enfin, il n'y avait pas que celle-là, mais ça n'a pas marché. J'ai eu plus de chance avec René.
Avec René, voilà. vous les avez alignés.
Avec qui j'ai
Herbes folles.
Les herbes folles. Vous n'avez encore rien vu.
Aimé boire et chanter. Trois affiches avec lui.
Ouais.
Dans des styles différents d'ailleurs.
Oui, à sa demande. Ouais. Dans des styles différents. Et la dernière que j'ai faite, c'était pour Mathieu à Malric. C'était la chambre bleue. Voilà, c'est la dernière. Mais après, j'ai tenté. C'est une aventure qui à chaque fois me séduit parce que ce sont des cinéastes amis pour la plupart et j'adore le cinéma mais ça rate une fois sur deux. Le dernier essai là, c'était pour le dessin n'est pas dans le livre, c'est pour Bertrand Mandicot pour Les Garçons Sauvages. Voilà, et puis
ils ont préféré une affiche du film aussi.
Ouais, ils ont préféré une photo avec les actrices.
Comme toujours.
Mais c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça, parce que ça fait des beaux dessins quand même.
Ah bah, ça fait des beaux dessins.
Des dessins intéressants, en tout cas. Ah bah,
des super beaux dessins. Voilà. L'affiche de Holly Motors.
Voilà. Enfin, moi, ça me permet de travailler. Mm. Ça me permet de discuter avec des gens. Ça me permet de rencontrer des gens. Ça me permet de rester, c'est jamais perdu, si vous voulez. C'est un travail qui n'est jamais perdu.
Elle se retrouve aujourd'hui exposée à Strasbourg. Bah voilà. Et dans la rétrospective.
Un dessin
en
plusieurs
album.
Vies.
Ouais. On vous a demandé à chacun et à chacune des sons pour faire plus amplement connaissance. Bruit d'insectes pour vous et pas de chevaux, hein, de Clermont-Tonnerre. Un commentaire sur ce qu'on entend.
Oui, oui. C'était bruit de grillon que j'étais en Chine quand j'avais 10 ans en fait. J'avais tourné un film quand j'étais en tant qu'actrice. C'était une des premières expériences que je faisais. Mais mes parents produisaient le film, j'étais partie avec ma mère, on est arrivé en Chine, et c'est vrai que c'était tout était nouveau pour moi, travailler sur un plateau de cinéma, découvrir la Chine à 10 ans, c'était assez exceptionnel, surtout que c'était à cette époque-là, vraiment, ça commençait un peu à s'ouvrir ouais. au monde, et je me souviens qu'il y avait des insectes énormes sur le tournage, la nuit, près des grands spots, j'avais des insectes, mais des gros scarabées noirs, tout bien luisants comme ça, qui faisaient des bruits. Et ce bruit-là m'est resté en tête, et cette espèce de bruit tropical qui me rappelle la moiteur de la Chine, les soirées d'été sur le tournage.
Quel voilà. était votre rôle à 10 ans sur ce film ?
Je faisais la fille d'Alain Bachung.
Oh, mais c'était quel film ?
Ma sœur chinoise d'Alain Mazar. Ouais. Il y avait Jean-François Balmer, Alain Bachung, et je faisais sa fille. Et c'était une histoire entre Alain Bachung qui retrouvait son amour perdu en Chine. C'était un missionnaire et du coup qui a emmené sa petite fille française. Et il avait une fille chinoise, donc il y avait toute une histoire. C'était très beau, très poétique. Mais surtout, moi, mon souvenir d'enfant voyageant à travers la Chine dans un... Alors que c'était la première fois pour beaucoup de Chinois qui voyaient ils savaient même pas qu'une petite fille de 10 ans aux yeux bleus et blondes, ça pouvait exister. Donc, je crois que même un jour, j'avais disparu, ça avait été un drame parce que, mais bon, bref.
Ça vous faisait peur, ces insectes?
Ça me faisait peur. Oui, j'ai jamais été passionnée. J'aime les animaux, mais je suis pas fan d'insectes. Mais c'était surtout le bruit, en fait. Mmh. Il y avait un bruit comme ça qui était assez terrifiant. Ouais. J'étais en même temps curieuse et j'avais un peu peur. Hein. Attraction, répulsion. Ouais. Voilà. Mais je me souviens de ces énormes. Et en plus, il y avait un membre de l'équipe, un chinois, qui pensait que je les regardais tellement. Il pensait que je les aimais. Donc, il les prenait, les capturait, les mettait dans des petites boîtes de plastique, comme ça, et puis me les donnait. Alors, je dis, ah non, j'en veux pas.
Musique pour vous, Blutch. On identifie cette musique, Blutch?
C'est Jerry Goldsmith, c'est le pré-générique, c'est le début du générique du film de Richard Fleischer qui s'appelle Tora, Tora, Tora.
Ça représente quoi pour vous pour l'avoir choisi?
L'entrée dans le. J'aime bien les tout débuts de films. Je trouve que les génériques se perdent, il y en a moins dans les films et j'adore le générique, j'adore l'entrée dans le film. Le début, l'ouverture, le lever de rideau. Ces notes souvent très fortes, très succinctes, qui vous font plonger tout de suite dans une ambiance, dans un climat.
Vous travaillez de la même façon pour les BD?
Ouais, j'essaye. Enfin, en tout cas, j'essaye de me mettre dans un état. Mais oui, on cherche une forme de transe, si vous voulez, quand même, quand on travaille. Et la musique nous aide.
Vous travaillez en musique?
Ouais, constamment. Ouais, j'ai besoin de ça. Parce que la musique m'isole du reste. M'isole du mouvement, de la vie domestique, de la vie à la maison. C'est une forme de caverne. C'est ma grotte, la musique. Voilà. Et là, il y a ces notes sont tellement étranges, presque dissonantes. Mmh. C'est Tora, Tora, Tora. Mais juste derrière, il y a la planète des singes aussi. Puisqu'il je crois que c'est lui qui a
ouais.
dû. Ouais, il a composé la musique de la planète des singes. Et C'est cette voilà, c'est début de film avant même que le film commence, parce que je pense que ces notes là,
c'est le générique.
Très dissonante. Non, mais c'est même avant. C'est sur, je crois que c'est sur l'image de la MGM ou de la déesse de la Columbia. Je crois que ça commence là. La musique est déjà là et on est déjà dans le film tout de suite.
Voilà. Musique pour vous aussi, lors de Clermont-Tonnerre. When they gather around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. Un tube. C'est qui?
C'est Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Et c'est mon premier grand choc de cinéma, Pulp Fiction. J'avais 11 ans quand il est sorti et c'était interdit au moins de 12, mais je m'étais infiltrée dans la salle quand même. J'étais fascinée. J'étais fascinée surtout par ce personnage féminin de Mia Wallace qui danse sur cette musique-là. Et je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle faisait. Je la trouvais formidable, je la trouvais belle. Je trouvais qu'elle avait quelque chose de glamour, elle avait du chien, du caractère. Et c'était mon idole pendant des années. Je voulais être Mia Wallace, sauf que j'ai compris plus tard qu'elle était défoncée à l'héroïne, mais ça je ne le savais pas à 11 ans, voilà.
Oui, mais on le devine un petit peu. C'est que là débute votre carrière plus tard d'actrice aux États-Unis, parce que vous êtes partie aux États-Unis assez rapidement quand même.
Je suis partie, oui, quand j'avais 22 ans, je suis partie à New York un an. Pour prendre des cours et en même temps je travaillais, j'avais été assistante du son sur un film de Manuel Pradal, Un crime. J'avais été aussi, je travaillais dans un restaurant, je faisais des petits boulots et puis je suivais des cours avec une professeure qui s'appelle Suzanne Batson dans un studio, j'avais adoré. Et après j'étais rentrée en France, j'avais fait mon master d'histoire que j'avais validé à la Sorbonne, donc ça c'était fait. Et ensuite j'ai commencé à travailler en tant qu'actrice, mais assez rapidement je me suis dirigée vers la mise en scène.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, allez te faire en où je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Balance ton quoi.
Balance ton quoi, c'est le titre signé Angèle, la programmation MeToo ce soir de Jean-Baptiste Audibert.
Rendez-vous.
Just stay there. Listen, easy.
Laurent Goumard.
Come on, please. Come on, stay there, man. Just fucking listen to me. Do you hear me? I'm not gonna hurt you. You hear me? You hear me, you stupid animal?
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Ambiance énervée pour cet extrait de Nevada, votre premier long métrage lors de Clermont-Tonnerre. On resitue ce passage?
Oui, 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 c'est le moment où, où le personnage de Mathias Chenard, donc Roman, n'arrive pas à approcher son cheval. Il perd patience et il vit un moment de grande frustration et de colère. Et donc, il explose de colère devant son cheval. Et qu'il n'arrive pas à toucher. C'est une sorte de danse, comme ça, de dialogue invisible où il fait un pas et le cheval recule et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il perde patience, ce pauvre Roman, et qu'il va abandonner, il va s'asseoir sur un tabouret ou un peu plus loin et il est désemparé.
Voilà. Effondré. Et
effondré.
Là, quelque chose va pouvoir se passer peut-être
et là,
le cheval.
Et voilà, et là, quelque chose, la magie arrive à ce moment-là.
Vous montez à cheval, vous ?
Oui. Je monte à cheval, depuis que je suis petite, mais je connaissais pas du tout le cheval sauvage comme j'ai pu le connaître, évidemment, à travers ce film. Je connais les chevaux, je monte à cheval, j'adore les chevaux, j'adore les animaux, mais c'est vrai que le cheval sauvage est un cheval très différent du cheval domestique.
Vous avez tenté de les monter là-bas ?
Alors, pas un cheval sauvage, non.
D'accord.
Non,
ceux qui étaient dans le film.
Ceux qui étaient dans le film, oui. Et d'ailleurs, j'ai adopté le cheval du film. Voilà. Donc, le cheval s'appelle donc.
Enfin, il y en a plusieurs.
Ah, il y en a trois.
Il y en a trois qui jouent le rôle de Marquis.
Ouais. Voilà. Il y en a trois identiques. Et il y en a un, il y a une version de Marquis qui est donc très bien dressée. Et c'est le seul d'ailleurs qui pouvait être monté par Mathias et par qui que ce soit. Et c'est celui-là que ma productrice américaine et moi, on a adopté. Voilà.
Il était à vendre ?
Il a été acheté en fait pour le film, et donc à la fin, l'entraîneur a récupéré.
Vous avez dû acheter le film, acheter le cheval pour le film.
Parce qu'en fait, c'était pas un Mustang, c'est ça l'histoire. C'est que c'est un cheval qui était déjà dressé. Les deux autres sont des Mustangs, mais celui-là ressemblait parfaitement, mais il fallait qu'on ait un cheval déjà très bien dressé pour toute la partie où il peut être monté. Parce qu'on ne pouvait pas apprendre à un cheval sauvage d'être dressé, ni à un cheval dressé d'être sauvage. Donc il fallait qu'on ait cette évolution. Donc, c'est pour ça qu'on avait trois versions identiques de Marquis pour pouvoir
travailler l'évolution du dressage.
Exactement.
Ouais. Ça vous inspire quoi, Blotch ?
La terreur.
C'est vrai ?
Vraiment, ouais, je pense que je préférerais sauter en parachute que de faire du cheval. C'est trop haut, le cheval.
C'est vrai que c'est haut.
Mmh. C'est très très haut. Ouais.
Vous avez tenté, donc ?
J'ai vu faire, j'ai des amis qui sont tombés, enfin c'est un truc qui me terrorise.
Ah bah là, dans le film, les chutes se multiplient.
Mon copain Mandico qui travaillait sur un script de western, il m'avait proposé un petit rôle, et je lis le rôle, je dis mais il faut monter à cheval. Il me dit c'est un western, je dis non, je monte pas à western mais sans monter à cheval. c'est terrible, je crois que c'est encore, je vais pas tenir le crachoir, mais c'est pire qu'il allait en prison, monter sur un cheval. Hein.
Toute proportion gardée.
J'ai vraiment peur du cheval. Hein.
Et Mathias Chenard, d'ailleurs, il savait monter à cheval ?
Non, il savait pas.
Vraiment, le cinéma, c'est la magie du cinéma, c'est de devoir apprendre à faire des choses qu'on ne sait pas faire.
C'est fou, parce qu'il, en fait, il m'avait dit oui, oui, ça m'est arrivé une ou deux fois, oui, mais je sais faire. Non, pas du tout. Mais heureusement, on avait prévu le coup. Donc, bien sûr, on avait beaucoup d'entraînement. Mais c'est vrai qu'en fait, il a dû complètement réapprendre avec un entraîneur et surtout à monter ce cheval-là, parce que c'était un cheval dressé. Mais il faut quand même, qu'il ait cette connexion. Donc, il a pris l'habitude de monter son cheval dans le film. Il y a des moments où il était. Ça lui faisait mal. Enfin, c'est vrai que c'est très physique. Quand on des heures d'affilée, ça peut faire très très mal. Donc voilà, c'est pas forcément confortable. Donc, il l'a très bien fait. Et puis, c'était bien aussi qu'il y ait cette fraîcheur dans le film, qu'il soit pas forcément un grand connaisseur des chevaux.
Ah ben non, justement, il improvise.
Cette vulnérabilité.
Ah oui, il est prisonnier. A priori, il a aucune connexion avec les chevaux. D'ailleurs, il n'en avait aucune. Et il va s'improviser dresseur de chevaux. Donc, c'est le même état que le cheval qu'il va apprivoiser. Donc, c'est un film de mec, un film de chevaux. Ça se passe en prison au Nevada. Comment vous avez choisi cette prison précisément ? Est-ce que vous en avez vu plusieurs ? Est-ce qu'il y a eu des repérages ailleurs ?
Non, en fait, c'était l'article que j'avais lu sur cette prison-là. C'était dans le Nevada, donc j'y suis allée.
C'est la prison où a lieu donc cette thérapie animale.
Exactement. C'est à Carson City, dans le Nevada du Nord. Et en fait, cette prison est nichée dans une vallée absolument magnifique, rocailleuse, très désertique, typique de l'Ouest.
Ouais, paysage de western.
Qui apporte complètement les éléments de western qui n'étaient pas du tout prémédités, parce que film de prison, c'était sûr. Mais ça aurait pu être une prison dans l'Arkansas, ça n'aurait pas du tout été le même film. Mmh. Et c'était vraiment le hasard de cet article qui parlait de cette prison dans le Nevada qui a fait que j'y suis allée. Et c'est là que je me suis attachée au lieu. Donc, contraste très fort visuel entre cette prison et cette nature explosive, immense. Et puis, je me suis aussi attachée à beaucoup d'hommes que j'ai rencontrés sur place.
Mais vous avez travaillé avec
des anciens détenus.
Ah, ouais. Des anciens détenus, ouais. Parce que la prison est en activité en même temps. Donc, j'imagine que le tournage n'a pas dû être facile.
Alors, on a tourné, on a fait des prises de vue dans la prison active. Mais il y a une prison abandonnée tout près, donc à quelques centaines de mètres. Et c'est là qu'on a tourné la plupart du film. Et en fait, il y avait ces anciens détenus que j'avais rencontrés quand ils étaient encore incarcérés et qui avaient fait ce programme donc de dressage.
De dressage, ouais.
Et ils étaient toujours là, ils vivaient à Carson City et ils sont venus en fait jouer dans le film et nous aider aussi pour tout le tournage, pour toute la partie chevaux.
Et pour ces anciens détenus, le dressage a changé leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont continué dans cette voie-là.
Pour l'un d'entre eux est devenu entraîneur. Donc lui, il en a fait sa vie. Le rôle de Tom. Et lui, j'ai été sauvé par un cheval. Il est devenu entraîneur et il a plusieurs chevaux à lui maintenant. Et il a créé un programme où il aide les femmes victimes de violences domestiques. Donc voilà, c'est une sorte de résurrection. Très belle trajectoire, très beau parcours. Et deux autres hommes étaient encore un peu en train de se s'en sortir. Donc c'était des trajectoires moins évidentes. Mais l'un d'entre eux a adopté un cheval après le film. Il a voulu vraiment s'y remettre. Et tous les deux ont été complètement réconciliés avec eux-mêmes et avec leur famille grâce à l'animal. Ouais.
Alors, pas de malentendu, ce n'est pas du tout un documentaire. C'est une fiction, à la fois film de prison et western. Un film centré sur Roman Coleman, joué par Mathieu Schoenaert. Il est en prison depuis 12 ans, il a tué sa femme à main nue. C'est un solitaire, il ne recherche pas du tout la compagnie des autres. Il la redoute même. Et puis, on lui propose donc une thérapie animale. Il va devoir dresser des chevaux. Le sien, il l'appellera Marquis. Des chevaux qui sont ensuite vendus aux enchères. Qui achète ces chevaux dressés par des détenus lors de Clermont-Tonnerre?
Alors, ces chevaux sont achetés pour la plupart par les fermiers du coin ou des particuliers, mais aussi et beaucoup sont achetés par la police. Et la police montée, la police des frontières. Donc l'ironie, que voilà, c'est un sujet qui a tellement de contrastes moraux, visuels, narratifs, mais un des plus grands contrastes, c'est que la patrouille, donc la police des frontières, reprend ses chevaux pour aller surveiller les frontières américano-mexicaines.
Alors, vous êtes vraiment forte, hein. C'est un premier film, il y avait déjà eu des courts-métrages, mais premier long-métrage tourné aux États-Unis sur un sujet pas si évident que ça, j'imagine. Ça a été facile de monter un tel projet. Vous avez été appuyé par Robert Redford quand même.
Oui, alors ça a été une rencontre assez exceptionnelle, mais ça a pris 5 ans. En fait, à partir du moment où j'avais lu cet article jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé 5 ans. Et en fait, c'est vrai que le premier à vraiment avoir cru en ce projet, c'est Robert Redford.
Bah, c'est l'homme qui parle.
Qui murmurait à l'oreille des chevaux, c'est pour ça. J'allais le faire plus tard, mais je vous ai vu dans les yeux de Blunt, je me suis dit, je la ferai pas, il va la faire, ouais.
Non, c'est vrai que le projet a été sélectionné dans les laboratoires de Sundance, donc j'arrive là-bas en janvier 2015, et là, je savais que Robert Redford avait créé Sundance, mais je m'attendais pas du tout à le voir aussi présent.
Festival du cinéma indépendant, ouais.
Voilà, Sundance, et aussi les laboratoires, l'Institut, qui permet aux jeunes cinéastes de créer leur parcours, de protéger leur voix, et contre les studios américains. Donc, c'est dans cette démarche qu'il a créé cet endroit où on peut créer et développer son projet de façon en sécurité, sans pression. Et donc, il lit tous les scénarios et quand il a lu le mien, il a été touché parce qu'en fait, il connaît bien ce programme. Il a adopté des chevaux en prison lui-même.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, il connaît bien les Mustangs. Il se bat pour la préservation de ses chevaux qui sont donc menacés. Donc, il a un sanctuaire et il les protège, il les recueille. Donc, c'était évidemment un sujet très proche de son cœur. Il a voulu l'accompagner comme un parrain créatif. Et ça a été une très belle collaboration.
Cinéma des grands espaces avec une lumière particulière, cadrage absolument magnifique. Quelles images de cinéma vous aviez avant de commencer lors de Clermont-Tonnerre à proposer à votre chef-op?
J'avais No Country for Old Men, qui était des frères Cohen, qui était c'est Roger Deakins qui a signé la photo, ouais. Magnifique, de ces grands espaces. Mais en même temps, il y avait une matière, une texture et des couleurs qui me plaisaient énormément.
Vous avez eu du mal à trouver un chef-op?
Oui, parce que on avait 23 jours pour faire le film. Donc il fallait...
Oh, oui, non, oui. C'est rien.
Ah oui, oui, non, c'était un miracle. Et je savais aussi que je voulais une caméra très agile et très immersive, qui puisse vraiment suivre les mouvements imprévisibles de ces chevaux et de ces hommes, et aussi avoir cette sensibilité pour capturer cette danse entre l'homme et le cheval, ces dialogues invisibles.
La violence qu'il peut y avoir aussi.
La violence, ouais. Le silence, toute cette poésie et en même temps cette ambiance très brute, très agressive. Et Ruben Impens, que je connaissais à travers son travail avec Felix von Groningen, correspondait parfaitement à ce que je recherchais. Donc, à l'épaule, extrêmement, une caméra très viscérale, un danseur. Voilà, il me fallait un danseur. Parce qu'il y avait toujours une chorégraphie entre le cheval, Mathias, l'entraîneur et la caméra. Et même si on avait préparé, même si on avait chorégraphié, c'est un animal, il faut s'adapter.
Il faut savoir improviser et s'adapter. Ouais. Une dernière question, vous avez commencé comme actrice. À quel moment vous avez compris que ce n'était pas pour vous?
La première fois que j'ai mis en scène une pièce de théâtre, j'avais 25 ans, donc c'était à 10 ans. Et c'est à ce moment-là, en fait, je me suis dit, ah mais ça c'est mes bonnes chaussures. Je suis bien là où je suis, à diriger des acteurs, à mettre en scène, je me sentais à ma place. J'avais toujours un peu l'impression que jouer à la comédie, je m'amusais beaucoup, ça m'a énormément appris, j'ai beaucoup observé, mais j'avais l'impression de me battre toujours contre quelque chose qui n'était pas naturel. Je ramais à contre-courant, il y avait quelque chose qui m'angoissait, je n'arrivais pas à lâcher prise, c'était pas dans ma nature. Donc quand je me suis mise dans la mise en scène, tout de suite, il y avait une sorte de... Alors il y a d'autres challenges, bien sûr, mais je me sentais beaucoup plus dans ma voix, dans mon... Voilà, c'était.
Et vous filmez des mecs. Il n'y a qu'une femme.
Et j'ai filmé beaucoup d'hommes. Ouais. Et d'ailleurs, c'était un tournage où il y avait. Heureusement, dans l'équipe, il y avait quand même pas mal de femmes dans l'équipe, parce que je tenais un peu à rééquilibrer un peu ce tournage très masculin. Mais oui, et je pense qu'avoir fait autant de recherches en prison m'a permis aussi de m'habituer à avoir cet univers, c'est un univers comme ça très, très viril, très masculin.
On pourra vérifier tout ça dans Nevada, sorti en salle mercredi prochain. Vous restez avec nous, on va parler illustration, dessin et cinéma aussi avec Blotch.
SEO, playing on my heart just like a Casio. Breaking it apart so you can let it go. Wait another year, that's not original. I'll send a call, alright, let's go now. Back to my vehicle. They just gonna tell you that I wasn't real. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it. Just like a Casio, drinking it up so you can let it go. We're dirty, that's not original. Send a call, alright, let's go now.
Still hard, and you're still holding on. You waited far too long. Le son des Anglais de Jungle dans le NRV, ils seront sur la scène de l'Olympia pour la fête de la musique de France Inter, eh bien, le 21 juin prochain.
France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Plateau, dessin et plus avec vous, Blutch. Mais on ouvre en musique avec Miles Davis. Miles Davis qu'on retrouve dans cet album Un autre paysage, une rétrospective de vos dessins, de vos illustrations chez Dargo. Miles Davis.
Miles, ouais. Vous voyez ce début de morceau, il s'appelle Rated X.
Ouais.
On le trouve sur l'album Get Up With It. Sur ce morceau, je crois que Miles joue pas de trompette. Il appuie. Je dis même pas il joue de l'orgue, il appuie sur l'orgue. Sur les touches de l'orgue. Et ces notes, elles me poursuivent depuis je sais pas, 20, 20, 25, 30 ans. Parce que pour moi, c'est une boussole, par exemple, ce morceau de musique. Je me dis, j'aimerais dessiner comme ce morceau de musique.
Et mais ça veut dire quoi, dessiner comme ce morceau de musique ?
Ces trois notes que vous venez d'entendre, ouais. Là, j'aimerais dessiner comme ça. D'avoir de rentrer dans la matière, dans la chair, comme ça. J'aimerais arriver à ça. J'y arriverai pas. Mais en tout cas, ce morceau de musique et ces trois notes qui ouvrent ce morceau de musique, c'est pour moi une boussole. Ouais. Je me dis, il faut que tu arrives à faire ça. Il faut que tu arrives à ce degré de tension
ou de funk
en même temps.
En dessinant, vous avez vécu des expériences. je pense que je vois des expériences très fortes, par exemple.
Oui,
vous avez des souvenirs comme ça
pour
des dessins précis.
Oui, mais c'est très difficile à formuler, parce que ça fait partie, le dessin c'est pas mal parce que c'est l'informulable.
Ouais.
C'est même pas de l'écrit, il y a rien à dire en fait. Non, j'ai même pas besoin d'être là. Non, mais je veux dire, ça parle pour moi. Non, mais ouais. Je veux dire, il y a des choses qui se passent qui sont presque du niveau de la transe, ouais, des fois, ouais, quand dans les bons jours, ouais, quand on est en verve, ça peut arriver, ouais.
Il y a un dessin comme
quand
ça qui vous vient à l'esprit.
De ce qu'on fait.
Il y a un dessin comme
quand
ça qui vous vient à l'esprit.
Il
y a un dessin comme ça qui vous vient à l'esprit avec lequel vous avez vécu une expérience particulièrement forte.
Il y en a plusieurs. Il y en a qui sont dans ce livre.
Dans ce livre,
Un autre paysage. Voilà. Mais comme je suis pudique, je vous dirai pas lesquels.
D'accord. C'est à nous à les trouver. Mmh. Plusieurs entrées dans le livre.
Ouais.
Variations, par exemple, illustrations et musique aussi. C'est là où on voit Miles Davis. Pourquoi avoir donné illustration, variation ? On voit bien qu'on reste dans le même registre, plus ou moins.
Ouais.
Mais musique, ça sort complètement.
Parce que on parlait de cinéma tout à l'heure et j'ai un petit rapport avec la musique parce que, par exemple, je fais les affiches du Festival Banlieue Bleue depuis une dizaine d'années.
Très associé au jazz.
Très associé au jazz. Et j'ai travaillé pour un magazine, le Feu magazine Jazzman, avec mon ami Alex Dutil, qui était rédacteur en chef de ce magazine à l'époque. Et moi, je suis venu au monde, au cinéma, mais aussi grâce au jazz, en fait. Donc, ça fait vraiment partie de mon, ça fait partie de mon travail, en fait. Donc, il y a un chapitre dans ce bouquin-là, une partie cinéma et une partie musique.
Les deux mamelles de Blutch. On va commencer à ouvrir cette monographie, mais ce qui est toujours intéressant quand il y a une monographie ou une rétrospective, c'est le premier dessin. Et le premier dessin, c'est celui qu'on met sur la couverture. Pourquoi avoir choisi ce portrait de femme et quelle est la technique employée ? Qu'est-ce que vous voulez dire en choisissant ce dessin que vous allez décrire, Blutch ?
Ce dessin est simple, direct et ambigu. Il est là, il est présent, c'est une figure de femme. Je me suis inspiré d'une photo d'une danseuse de ballet.
Ouais.
Et elle a les deux mains devant la bouche. Et
les deux mains fermées, comme des
poings.
Les deux
mains fermées devant la bouche. Et puis, il y a son regard qui s'enfuit vers la gauche. On ne sait pas ce qui se passe. La figure est toute simple. Ça raconte, il n'y a pas de décor. Il y a une peine, une indication de costume, donc il n'y a aucun élément anecdotique, et malgré tout, il y a une ambiguïté. On ne sait pas sur quel pied danser. C'est un dessin frontal que j'aime beaucoup. Il a été exécuté au pastel, voilà, dans ma chambre à coucher. sur le petit chevalet, voilà, au pastel. Et puis, il m'a fallu des semaines pour faire ce dessin. Parce que on le laisse tomber, puis on revient, et puis on y retourne, et puis voilà.
Ah, c'est tout le contraire de la BD.
Et après, on revient. Voilà, je l'ai fait il y a une dizaine d'années. Voilà. Mais pour rien. Je l'ai fait pour rien, sans but. C'était pas pour une pochette ou pour une affiche ou pour quoi que ce soit. Je l'ai fait comme ça. Je l'ai fait pour moi. Mais il nous est apparu évident
qu'il pouvait comme ça ouvrir cette monographie et toutes les expos qu'il y a en ce moment donc à Strasbourg. Vous avez eu le temps de regarder un petit peu, j'imagine, l'album. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué lors de Clermont-Tonnerre?
Moi, c'est l'expression. Je suis tombée sur une page. La première page que j'ai ouverte, c'est le même dessin avec deux expressions différentes. Une qui ferme les yeux et une autre qui ouvre les yeux. Et il y a une expression comme ça de qui change mais radicalement de l'une à l'autre, une d'hébétement et l'autre de cynisme, une sorte de cynisme.
Ah oui.
Hein, c'est alors je sais plus laquelle c'est. J'ai ouvert et c'est la première et ça m'a vraiment frappé.
Alors, c'est une femme sur un canapé.
C'est une femme, sur un canapé. Expressions.
J'ai vu quand vous avez ouvert le livre.
Et c'est pas celui-là, mais c'est dans cette série-là.
Ouais.
Exactement.
C'est dans la série Variation.
Ouais. C'est dans la série Variation. Variation de ton, d'expression.
Il y a des...
Bludge.
Je pense qu'il s'agit de Portrait de ma femme.
Celui-là.
Voilà.
C'est celui-là.
Portrait de votre femme.
Oui. Et ce qui est une chose assez commode...
2019.
Oui, c'est très récent. Il y a une chose assez commode quand on dessine, c'est le lecteur DVD. Parce que mon modèle regarde la télévision, regarde un film...
Bouge pas.
Et ne bouge pas. Elle s'occupe pas de moi et elle m'oublie. Et pour dessiner, c'est l'idéal. Là, vous avez certainement des réactions qui sont suscitées par le programme ou le film qu'elle regarde.
En fait, c'est ça, oui.
Ah, c'est ça, c'est génial.
Les sentiments que l'on voit sur le visage, c'est ce qu'elle est en train de regarder.
Il m'arrive de la dessiner aussi quand elle lit, c'est-à-dire quand elle oublie qu'il y a quelqu'un. Qui est pas. Voilà. Donc, ça, ce sont des dessins de carnet.
Là, elle s'est endormie.
Ce sont des carnets. Non, elle regarde. Ce sont des dessins de carnets.
Vous dessinez tout le temps. Parce qu'il y a la BD, il y a votre travail de BD, d'illustrateur, de dessinateur ici. Ça veut dire que vous dessinez absolument tous les jours, tout le temps.
Oui, presque. Oui.
Vous avez toujours un carnet sur vous, par exemple.
Là, non. Non. Pas
ça tombe mal
pas
pour
maintenant,
nous.
Parce que je suis venu.
Sans rien.
Je suis venu
pour rien.
Pour débeauter. Je suis venu pour le plaisir. Non, j'écoutais, j'ai. Oui. En tout cas, je comme un musicien, je pratique. Parce que j'ai la hantise de perdre. J'ai la hantise qu'un jour, comme si j'avais un pouvoir, ce pouvoir va s'évanouir.
Alors, donc, même que vous avez une technique.
Non, mais c'est comme un musicien. Hein, je suis obligé de travailler. Enfin, je travaille, quoi. Enfin, je gribouille, même. Voilà. Même des choses informes, mais c'est presque de la manie, c'est presque de la. C'est du réflexe.
Ce qui est troublant quand même, c'est de voir que tous les registres de dessin, toutes les techniques sont présentes dans cet album. Il n'y a pas une technique qui est représentative du style de Bludge?
Non, je crois pas, non.
Je ne
sais pas qui je suis, en fait, vraiment.
Bah, c'est ce que je...
Alors, justement, le bouquin reflète ça, c'est que je ne me connais pas et je ne suis pas enclin à tant que ça à l'analyse. Ça fait partie de mon travail, en fait, d'essayer de m'échapper à moi-même, à un genre, à un style, à une manière de faire, à un confort.
Il y a encore des sujets.
Disparaître. Moi, j'aimerais bien dessiner, des fois. Mon grand fantasme, c'est Émile Ajar. J'aimerais bien disparaître derrière un pseudo, ce qui n'est pas possible en dessin. Mais...
Ah, vous avez déjà un pseudo.
Oui, mais Romain Gary, c'est déjà un pseudo aussi. Hein.
Oui, tout à fait.
Mais je veux dire, d'avoir.
Un autre pseudo.
En fait, à un moment, je pensais même créer une dessinatrice qui n'existerait pas et disparaître. Parce que c'est marrant parce qu'on fait des métiers où on s'expose et en même temps on a ce souci paradoxal de disparaître derrière le travail.
À quel moment vous avez choisi d'ailleurs ce pseudonyme de Bludge?
Je l'ai pas choisi et c'est pas un pseudonyme. Ce sont mes amis qui m'ont surnommé Bludge quand à l'âge de 15 ans à peu près. C'est un sobriquet. Voilà, mais c'est un sobriquet qui a été adopté par tout le monde. Mes parents m'appellent comme ça. Hein. Tout le monde.
Mais vous avez vraiment disparu.
Voilà.
Ouais. Parce que vous appelez Christian.
Ouais.
Ah, c'est ça. Christian a complètement disparu.
Non, 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 il est là, mais mon nom social, c'est ça.
Mais
c'est
devenu... même vos parents vous appellent Blutch. Ouais, ça, j'en reviens pas. Ouais,
ouais. Votre femme aussi. Ouais.
Ils ont l'accent alsacien. Donc ils disent Blutch.
Et votre femme, la question de Marion aussi. Votre femme vous appelle Blutch ?
Oui, bien sûr. Ah ouais. Bien sûr. Et. Ouais.
Ah non, mais je trouve ça incroyable.
Oui, oui, mais ça s'est fait presque à mon insu. Voilà. Des fois, je l'ai regretté, parce que je trouvais ça un peu ridicule. J'aurais préféré m'appeler Kirk ou Burt, ça aurait été plus viril.
Burt, hein,
on parlait de virilité tout à l'heure.
Oui, mais Blutch, voilà. Ça vous installe dès le départ dans le dessin et dans la bande dessinée. Tout ça est à vérifier donc, dans cet album. Un autre paysage chez Dargo, puisque vous aimez la musique. Ah, oui. Eh bien, on va parler musique tout de suite. Ce sont les nouveautés nouvelles de Marion Guilbeault.
On jouera n'importe où, n'importe quand, pour n'importe qui.
Rendez-vous. Vous êtes des policiers ?
Non, madame, des musiciens.
Marion.
Laurent, premier omni de la semaine, c'est Basile Dimanski. Alors, Basile Dimanski, avant même d'entendre sa musique, j'avais lu son nom. C'était il y a 3 ans. Il m'avait envoyé un calendrier érotique où il apparaissait à chaque page, dessiné, mis en scène, en photo, dans un délire mystico-kitsch, un peu comme un petit frère de Sébastien Tellier. Et à l'époque, il avait présenté ses premières chansons avec un concert de 12 heures dans une chambre d'hôtel en plein Pigalle. Alors, dans le petit milieu de la musique électronique, eh ben, une légende était née. Un storytelling bien fourni, hein, pour Basile Dimanski. Il a vécu en Italie, il a vécu à Ramallah quelques mois, il dessine, il écrit des romans, il réalise des films, il a suivi des études de droit et puis il a failli perdre un poumon. Il a perdu connaissance, il est resté à l'hôpital, il s'est réveillé, puis là il a vu la lumière, il s'est dit non, je vais me consacrer entièrement à la musique. Alors Basile Dimanski compose comme il dessine, c'est-à-dire sous influence, je le cite, « Le THC me permet de rester 7 ou 8 heures sur un même morceau dans une forme de dolce vita intérieure jusqu'à atteindre une forme de transe. La transe, l'amour, la douceur, l'écologie, les couleurs saturées, il y a tout cela dans le premier album de Basile Dimanski. » Before the World, Basile Dimanski, c'est l'extrait de son premier album Transworld, ça sort demain sur le label Pain Surprise, c'est le label du producteur Jacques, bien connu de cette radio et des auditeurs sentimental, bien sûr. Blutch, vous dessinez l'affiche du festival Banlieue Bleue, vous y allez à Banlieue Bleue ? Vous allez voir des concerts parfois ?
Pas assez souvent, je le confesse, parce que ça tombe souvent à des moments. Déjà, je suis pris par une vie familiale intense.
Vous aimez ça, voir des artistes
live ? Ouais, j'en ai vu à Banlieue Bleue, j'en ai vu. J'ai vu des gros en plus, hein, Hornet.
Ouais, une très belle programmation.
Ah ouais, j'en ai vu des monuments du jazz là-bas.
Et vous dessinez sur le vif pendant les concerts ?
Ça m'est arrivé, à la Villette en 2000, sur scène. Et je me souviens de John Zorn. Et la scène elle tremblait. La scène elle tremblait littéralement et moi mon stylo tremblait sur le papier. J'étais sur scène avec eux, avec le batteur de hard rock et tout. Non, j'ai des souvenirs de musique vraiment. Rien que d'en parler, j'ai la chair de poule.
C'est encore vraiment, des frissons. Ouais. Alors l'autre personnalité de la semaine, c'est Pénélope Anténa. Anténa, c'est un nom qui évoquera sans doute quelque chose aux amateurs de curiosité musicale. Cette jeune productrice est en effet la fille d'Isabelle Anténa. Isabelle Anténa, elle est porteuse d'une bossa nova atypique, c'était au début des années 80, pour un label belge très pointu qui s'appelait Les Disques du Crépuscule. Et Pénélope Anténa, elle est aussi la petite fille du compositeur belge Marc Moulin. Il a composé des musiques, beaucoup de jazz, beaucoup de musique électronique également. Et c'est d'ailleurs dans la maison familiale, entourée des instruments de son grand-père, qu'elle a expié un grand chagrin d'amour de ceux qui vous laissent par terre mais pas sans voix, parce que c'est autour de celle-ci, le siège de toutes ces émotions, que Pénélope Anténa a tissé des mélodies étrangement belles. Elle est restée seule pendant presque un an dans cette maison perdue au milieu de la forêt. Elle a mélangé, elle a expérimenté avec l'acoustique, l'électronique, la tourmente, l'espoir, l'autotune, le piano. Et si les branches des arbres pouvaient chanter, ça ressemblerait sans doute à ça.
I tried so hard. to be you. Ooh. I changed my voice, my voice, my voice. I changed the things I love to write about. Here I am, flying up 6 hours straight. Am I going to hell now?
Elle s'appelle Penelope Antenna. Son premier disque, Antelope, sortira demain sur le label Koto Records. Et le dernier son de ses nouveautés nouvelles, c'est la voix de Nicolas Pogam. Alors, c'est pas vraiment un nouveau venu. Il vient juste de publier son 4e album, Le ventre et l'estomac, variation autour de notre anatomie la plus intime. Mais sa singularité, sa bizarrerie à Nicolas Pogam, elles sont telles qu'il est en train de devenir un des secrets les mieux gardés de la chanson française. Ses chansons nous font le coup du charme, de l'autodérision, de l'illumination. C'est un amoureux de la musique populaire brésilienne, du swing manouche. Alors oui, quand on écoute sa pop solaire, fantaisiste, on pense parfois à Philippe Catherine, à Barba Gallo, à Pierre Vassiliou, voire à Michel Legrand, avec ses scats excentriques. Oui, sa voix est tellement parfois haut perché qu'elle nous donne des vertiges, car il n'y a pas d'autotune par contre, hein, chez Nicolas Pogam. Il préfère nous donner rendez-vous au sommet pour sauter joyeusement dans le vide avec lui.
Rendez-vous au sommet avec Nicolas Pogam, un extrait de son nouvel album Le Ventre et l'Estomac, la programmation au sommet de Marion Guilbeault. Merci Laure de Clément Tonnerre. Je rappelle que Nevada sortira en salle mercredi prochain et demain, la série The Act, on n'a pas eu le temps d'en parler, c'est sur Apple TV. Pour vous, un autre paysage Butch est paru chez Dargo. Il y a 3 expositions en ce moment à Strasbourg, au Musée d'Art Contemporain, au Musée Toumi Ungerer et à l'Aubette. Merci à vous deux.
Merci Laurent.
Merci beaucoup.
Le NRV, première partie, c'est fini. On se retrouve dans 15 minutes après le journal avec ça.
On a l'impression de faire de l'usinage et on n'est pas chez Ford ici, on est à l'hôpital.
Oui, à l'hôpital, il y a urgence. Le rendez-vous est pris, alors à tout de suite.